They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆家正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, une émission préparée ce matin par Xavier Martinet, mais aussi Clément Salazar, Tiffaine de Roquigny, Hélène Paquet, réalisée ce matin par Charles Le Gargasson et mise en onde par Jean-Frédéric. Troisième volet de notre série consacrée à la crise des valeurs démocratiques, aujourd'hui on va s'intéresser à l'Union européenne.
C'est un jour historique parce que nous avons conclu un accord très important entre la Turquie et l'UE. Nous avons réalisé que la Turquie et l'UE avaient le même destin, les mêmes défis et le même avenir.
Tout migrant ou réfugié irrégulier qui se présentera en Grèce sera ramené en Turquie, c'est-à-dire de là où il vient, après un examen particulier de sa situation.
Ce qui est déterminant et ce qui n'a pas changé, c'est que les négociations d'adhésion de la Turquie à l'Union européenne n'est pas à l'ordre du jour.
Ahmet Davutoglu, Premier ministre turc, François Hollande et Angela Merkel. Le mois dernier, Bruxelles a signé un accord avec Ankara dans lequel la Turquie s'engage à accepter le retour de tout migrant arrivé en Grèce n'ayant pas fait de demande d'asile ou dont la demande aurait été rejetée. De son côté, l'Union s'engage pour chaque Syrien renvoyé à réinstaller un autre depuis la Syrie vers un pays membre dans la limite de 72 000 places. Cet accord a été critiqué par l'ONU. Certaines ONG ont même remis en cause sa légalité, mais surtout et au-delà des critiques, il constitue une entaille aux valeurs de défense des droits de l'homme et à cette philosophie du vivre ensemble qui fait le cœur du projet européen. Outre la crise des réfugiés, l'Europe doit aussi faire face à une crise sécuritaire sans précédent. Les derniers attentats de Bruxelles ont montré combien il était impératif de rassembler toutes les forces afin de lutter contre le terrorisme islamiste. Face à des individus qui rejettent en bloc les principes du vivre ensemble, justement, quelles valeurs peut-on et doit-on leur proposer afin d'éviter qu'ils ne déstabilisent nos sociétés déjà fragiles au point de finir de les convaincre que leur avenir se situe hors de l'Union ? Et puis par ailleurs, la crise du projet européen est bien antérieure, bien sûr. En effet, lors des dernières élections européennes, par exemple, au printemps 2014, les partis populistes d'extrême droite avaient fait une percée inédite. UKIP en Grande-Bretagne, le Parti populaire au Danemark, le FN en France, trois partis europhobes arrivés en tête du scrutin et dont les représentants sont partis à l'assaut du Parlement avec le projet de le saborder de l'intérieur, provoquant un véritable séisme sur le continent. Alors la montée des populismes européens aura-t-elle raison du projet européen ? Comment réenchanter l'Europe, poursuivre sur le chemin de l'intégration ? D'ailleurs, à quel point les histoires nationales, régionales, pestent dans les populismes européens, le cas des pays de l'Est est intéressant. Pologne, Hongrie, régulièrement accusés de dérives autoritaires, mais aussi intégrés tardivement dans une Europe en perte de vitesse. C'est le professeur de politique internationale Hendrik Hansen à Budapest qui nous répondra. Et puis on ira également aux Pays-Bas où la situation politique vient soudainement de montrer un visage qui laisse peut-être perplexe, en tout cas une partie de l'Europe, avec un non assez franc, 61%, lors d'un référendum sur l'accord d'association entre l'Union européenne et l'Ukraine, ceci sur un fond de montée du Parti pour la liberté de Geert Wilders. C'est le politologue Laurent Chambon qui nous expliquera la situation en direct d'Amsterdam, mais d'abord ici, en direct, en plateau, avec nous, depuis le studio 108 de la Maison de la Radio, notre invité, Yves Surel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2. Vous êtes également enseignant à Sciences Po et puis directeur de la collection Logique politique aux éditions L'Harmattan. Voilà pour les présentations. Alors, il y a quelques semaines, Yves Surel, tout le monde s'inquiétait de la fin possible de l'espace Schengen, de la fin de la libre circulation, qui est quand même l'un des piliers de l'Union européenne. Alors on a essayé de rassurer un petit peu tout le monde en expliquant que finalement les textes précisément prévoyaient cette suspension et que donc en réalité cette suspension c'était un moyen de sauver Schengen, en tout cas temporairement. Et puis avec cet accord sur les migrants, l'Europe fait une croix sur un autre de ses principes fondateurs, l'accueil des réfugiés, qui nécessite évidemment indéniablement l'asile, en tout cas pour les Syriens, il n'y a pas vraiment de discussion. Cet accord n'est que finalement la formalisation de notre incapacité, de notre refus finalement à les accueillir, comme le prévoyait d'ailleurs, il faut le rappeler, cet accord en septembre dernier sur la répartition de 160 000 réfugiés qui en réalité sont aujourd'hui un tout petit peu plus de 1000 à avoir été accueillis par un État membre. On a franchi, sur elle, on a le sentiment, une nouvelle étape dans le repli sur soi qui semble toucher désormais quasiment l'ensemble de l'Europe, y compris l'Allemagne. On multiplie les dispositifs pour faire de l'Europe une forteresse, qui constitue évidemment un risque majeur, puisque précisément ce projet européen, il repose sur cette philosophie du partage et de l'ouverture. Mmh.
Oui, c'est ce qui est un peu frappant dans les dernières décisions et les dernières évolutions, c'est que on a le sentiment que même si l'Europe, c'est un processus toujours politique et fait de compromis successifs, là, le compromis emporte effectivement donc des conséquences négatives sur les valeurs et même sur ce qui porte le projet européen depuis son origine. Alors, c'est toujours compliqué avec le processus européen parce que c'est un processus heurté avec parfois des effets contradictoires des compromis politiques qui sont passés. Toute la question est de savoir si ce compromis récent est de nature différente, notamment parce qui n'engage encore une fois les valeurs constitutives de l'Union européenne.
Mmh. Il y a une chose qui est paradoxale là-dedans, Yves Surel, c'est que le deal qu'il y a derrière cet accord, alors outre évidemment les 6 milliards d'euros qui sont accordés à la Turquie d'ici 2018, c'est aussi la levée de l'obligation de visa imposée aux ressortissants turcs qui désirent voyager sur le territoire de l'Union européenne. Donc alors qu'on refuse aux Turcs d'envisager leur intégration, même si on leur explique que les négociations ont repris, en réalité tout le monde sait très bien qu'il n'est pas question d'intégrer la Turquie compte tenu du contexte actuel, et bien dans le même temps, on leur permet justement de bénéficier de ce qui, à leurs yeux en tout cas, est l'essentiel de l'avantage de l'adhésion. Quand vous demandez à un Turc, il vous dit bah, « pour moi l'Europe a ses pouvoirs circuler à l'intérieur de l'Union européenne ». Donc ça, on leur donne.
Oui, c'est ça qui est paradoxal, comme souvent avec le projet européen, c'est qu'on a le sentiment qu'il y a des avancées petites, en tout cas il y a des espèces de compromis parfois un peu boiteux, et en même temps il y a toujours des effets non anticipés de certaines décisions, et je pense que une partie des attentes peut-être de certains leaders européens à ouvrir les frontières, en tout cas aux Turcs, avec cette facilitation de l'obtention des visas, et aussi de leur faire comprendre qu'ils appartiennent à un espace politique et culturel relativement unifié, en tout cas que les citoyens eux-mêmes puissent se figurer autrement la relation à l'Europe que celle de leurs leaders. Parce que c'est vrai que dans les discours à la fois des leaders européens, des leaders turcs, on a le sentiment qu'ils mettent une croix, en tout cas pour l'instant, sur le processus d'adhésion, qui est enclenché donc quand même depuis 1963 avec évidemment différents flux et reflux. Mais voilà, il y a toujours cette espèce de compromis, en tout cas de hiatus, entre des dynamiques institutionnelles parfois très lentes et qui produisent des effets non anticipés et puis des compromis politiques qui sont parfois extrêmement, extrêmement négatifs.
Et puis ce qu'on pourrait ajouter peut-être pour en finir avec cet accord, c'est que par ailleurs, on le sait, ce président turc Erdogan, il est en pleine dérive autoritaire et cet accord avec l'Europe et plus généralement en réalité la crise des réfugiés, c'est un levier pour lui qui lui permet de conforter sa légitimité auprès de la communauté internationale et peut-être aussi auprès de sa propre opinion. Donc en réalité, dans cette affaire, la démocratie européenne et la démocratie turque en sortent affaiblies, les deux.
Oui, bien sûr, il y a une instrumentalisation réciproque avec là, un rapport de force qui est clairement favorable dans les dernières négociations au pouvoir turc. Et c'est vrai que parallèlement à ces accords passés avec les leaders européens, pour ce qui concerne par exemple nous universitaires, on sait que certains de nos collègues sont vraiment menacés donc en Turquie, donc empêchés d'exercer leur métier, parfois même emprisonnés ou jugés. Donc il y a encore une fois voilà cette espèce de hiatus entre les compromis passés avec un pays qui est effectivement dans certains aspects, dans une dérive autoritaire, et puis donc un compromis sur les libertés, un certain nombre de principes.
Alors, il y a la crise des réfugiés, mais il y avait déjà la crise économique et financière, il y a eu la crise des dettes publiques, il y a ce chômage endémique, il y a cette exacerbation des égoïsmes nationaux dont on parlera tout à l'heure. Autant d'éléments qui, progressivement, ont miné l'Union européenne, au point de se demander si aujourd'hui, l'édifice ne risque pas de s'effondrer. Il y a une chose qui est frappante et quand même assez effrayante, Yves Surel, c'est cette incapacité des responsables européens à réagir. L'Union est incapable d'agir et de façon coordonnée et cohérente. Vous avez peut-être lu il y a quelques jours dans Libération l'ancien député européen Daniel Cohn-Bendit qui expliquait dans une tribune à propos des classes dirigeantes nationales, il disait « à aucun moment l'Union européenne n'a été perçue comme leur nouvel espace à gouverner afin d'amplifier leur propre action politique ». Comment le comprendre ?
Il y a un effet de génération. Je pense que c'était le cas pour des leaders européens antérieurs. Enfin, le projet européen était clairement vu comme un élément d'un projet politique plus vaste chez des leaders comme Kohl ou Mitterrand dans les années 80. C'était très clair. Et c'est ce qui a justement, avec notamment l'appui de Jacques Delors à la Commission, permis une accélération significative de l'intégration européenne. C'est vrai qu'on a le sentiment, et on le voit dans certaines études récentes, qu'il y a une rétraction des enjeux électoraux sur les débats nationaux. Il y a un déficit de pédagogie, très clairement, sur l'Europe. Et l'Europe est quand même devenue comme ce qu'on appelle parfois un support de l'évitement du blâme électoral. C'est-à-dire que les leaders européens vont dire que pour éviter la défaite électorale, que s'il y a des évolutions négatives, ça n'est pas de leur fait, mais c'est le fait de devoir se soumettre à un certain nombre de directives communautaires.
Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en réalité, cette incapacité à dépasser précisément le cadre national, il est d'autant plus dommageable qu'en réalité, aujourd'hui, les leviers d'action, ils sont très largement supranationaux. Au niveau des États membres, on sous-estime d'une certaine manière les capacités d'action de Bruxelles.
Oui, bien sûr, dans toute une série de domaines, enfin on le voit notamment dans un grand nombre de politiques publiques, les injonctions, en tout cas la direction prise par les politiques, elle émane souvent de directives communautaires. Et c'est un universitaire allemand, Fritz Schaub, qui avait bien montré ça il y a quelques années. Donc il avait montré que la démocratie, c'est quelque chose qui fonctionne comme un circuit de légitimité. Il y a la légitimité par les inputs qui est liée à l'élection et la légitimité par les outputs qui est liée à la performance du gouvernement. Donc les acteurs sont jugés à la fois sur, les régimes sont jugés à la fois sur leur capacité à nourrir cette légitimité par le vote et cette légitimité par l'action. Alors ce qu'il avait montré, c'est que la légitimité par l'action, elle a assez largement été transmise à Bruxelles, alors que la légitimité par les inputs, elle est restée au niveau national. Donc et ça justifie toute une série de demandes faites par un certain nombre de leaders européens, dont Daniel Cohn-Bendit, d'ailleurs, de renforcer les institutions européennes pour essayer de réarrimer finalement ces deux dynamiques de légitimité.
Alors comment on fait justement? Parce qu'on le dit, donc la participation démocratique, elle continue de s'inscrire finalement dans une logique assez largement nationale. Et d'ailleurs, on le voit, d'abord on le voit dans la défiance à l'égard de l'Union européenne, mais aussi et surtout, on le voit à travers le fait que les citoyens aux élections européennes votent de moins en moins. Regardons le taux de participation aux dernières élections européennes dont on va parler dans quelques instants, 42,61%. C'est le plus faible taux depuis les premières élections de 1979. Alors qu'est-ce qu'il faut pour dépasser cette logique nationale? Et est-ce que vous pensez que c'est encore possible?
Oui, mais il faut pas être totalement pessimiste, parce qu'il y a des acquis quand même très importants de l'intégration européenne. Il y a des institutions. Souvent, les universitaires américains sont assez surpris des débats qu'on a en Europe, parce que pour eux, on est déjà une fédération. C'est-à-dire que ici, on a déjà tous les attributs d'un État fédéral, avec des institutions relativement homogènes.
C'est bien les seuls à considérer qu'on est une fédération.
Oui, c'est vrai. Donc, mais ce qui nous rappelle aussi, c'est que la fédération, c'est pas non plus la disparition des unités constitutives de la fédération. C'est que il y a une identité texane aux États-Unis très forte qui cohabite avec une identité américaine également très très forte. Il y a des capacités d'action au niveau des États qui sont plus ou moins corrélées à des capacités d'action au niveau fédéral. Et donc pour eux, il y a toute une série d'attributs. Ce n'est pas une différence de nature, pour eux, c'est une différence de degré. C'est-à-dire que le degré justement d'intégration fédérale, ce qui manque, c'est un certain nombre de dynamiques politiques et démocratiques à l'échelle commune.
Mais alors qu'est-ce qui manque justement? Parce que sur presque tous les problèmes, on constate que l'Europe est incapable en réalité de faire front commun. Il y a très peu de sujets sur lesquels on est capable de le faire. Là, on parlait de la gestion des flux migratoires, bien sûr. Il y a eu ces désaccords profonds sur la crise des dettes publiques, sur comment il faut régler la question grecque. La faute à qui? D'où vient cette incapacité, finalement, à créer du consensus? Est-ce que c'est la faute, précisément, de nos institutions, de leurs formes, qui, finalement, sont incapables de faire émerger ce consensus?
Je pense qu'il y a des raisons qui sont des raisons un peu structurelles. C'est qu'il y a les États membres sont dans des situations notamment économiques et sociales qui sont très différentes les unes des autres. On a pu montrer que notamment au moment de l'entrée dans l'euro, un certain nombre de pays à l'évidence n'étaient pas préparés donc au choc que constitue l'entrée dans l'euro, puisque ça renchérissait de manière excessive et évidemment le prix de leurs produits à l'exportation. Donc ça alimentait toute une série de dissymétries entre les États européens. Et donc il y a encore une fois toute une série de dysfonctionnements qui sont liés à cet état objectif.
On a voulu aller trop vite.
Dans certains cas, sans doute, oui, au sens où certains États n'étaient pas préparés, ou alors l'Europe n'a pas suffisamment tenu compte de ces écarts de développement, contrairement à ce qui s'est passé auparavant.
Notamment, donc c'est pas un problème d'institution, en vous entendant.
C'est aussi un problème de moyens, c'est que les États membres ont pendant plusieurs années refusé d'augmenter le budget, par exemple, des institutions communautaires, alors que les politiques communautaires sont aussi des politiques de transfert, de redistribution à l'égard des États membres.
Il faut un budget européen.
Il faut un budget européen, parce que si l'action publique est au niveau européen, il faut que les moyens de l'action publique soient au niveau européen.
Ouais, voilà, je vous repose la question de savoir tout à l'heure si vous y croyez. Le budget européen, personne n'est pour.
Non, c'est vrai, pour l'instant, la situation politique est totalement bloquée.
Oui. Alors, on fait quoi?
Il faut, je pense, essayer de reprendre une pédagogie de l'Europe et peut-être faire confiance aux citoyens aussi qui, pour beaucoup, se sentent européens. Ce qui est frappant, c'est que même s'il y a une diminution récente dans les eurobaromètres, il y a malgré tout un indice de confiance pour l'Europe qui est relativement
positif. Mais c'est vrai, c'est très paradoxal, voire carrément schizophrénique. Alors, il y a ceux qui croient effectivement en l'Europe, et puis il y a les autres. Alors, on va revenir sur les dernières élections européennes, donc c'était en mai 2014, qui sont caractérisées, je le disais tout à l'heure, par la percée d'un certain nombre de partis qui étaient jusqu'ici minoritaires, voire carrément des partis totalement inconnus, carrément nouveaux à l'époque.
Le peuple a son destin en main, et personne ne peut ignorer la détermination d'un peuple.
Les leaders européens, et avant tout Madame Merkel, doivent comprendre que la politique d'austérité vient de subir une énorme défaite.
L'Europe est en train de plonger. Ce qui détruit l'Europe, c'est l'arrogance du gouvernement allemand. C'est cette incapacité de certains dirigeants à défendre leur peuple. Donc je lance un appel aux socialistes. Mettez un terme à cette maudite grande coalition qui nous mène droit dans le mur.
Ce Parlement n'a aucun pouvoir. Et donc, et c'est beaucoup plus grave. Les peuples européens n'ont aucun pouvoir et notamment aucune connaissance de ce qui est en train de se dérouler dans leur dos.
Je crois que l'ensemble du projet européen repose sur un mensonge. Et potentiellement, c'est un mensonge dangereux. Parce que si vous essayez d'imposer un nouveau drapeau, un nouvel hymne, un nouveau président, une nouvelle armée, de nouvelles forces de police et que sais-je encore, si vous essayez d'imposer tout ça sans avoir eu au départ l'approbation du peuple, vous risquez de créer des nationalismes extrêmes.
Voilà, alors Syriza en Grèce, Podemos en Espagne, le FN ici en France ou encore UKIP en Grande-Bretagne. Alors on a vu dans ces dernières élections à la fois ces partis donc d'extrême droite comme le FN ou le UKIP. Et puis aussi, par ailleurs, on a également vu l'aperçu du côté des forces de gauche, gauche radicale comme Podemos ou Syriza, qui aussi rejettent l'Union européenne, en tout cas dans sa forme actuelle. Alors comment est-ce que vous analysez, Yves Surel, cette percée des partis populistes eurosceptiques, et puis quoi de commun entre toutes ces formations? Quelle cohérence pour cette galaxie de mouvements qui, évidemment, s'ils ont des points communs, et notamment peut-être celui du rejet de l'Europe, en tout cas de cette forme de l'Europe, peut-être aussi le rejet de l'immigration, même si du côté de la gauche, c'est pas quand même aussi clair, il y a aussi beaucoup de points de divergence.
Oui, oui, bien sûr. Alors, la notion générique qui est souvent employée, c'est celle de populisme, qui nous pose toujours un peu des questions, nous, universitaires, au sens où elle s'applique effectivement à une telle variété de phénomènes qu'elle nous paraît parfois difficilement mobilisable.
Il faudrait la bannir ?
Non, enfin, on peut pas bannir. C'est un élément du débat public et on peut pas laisser de côté donc une notion qui participe de manière aussi claire du débat public et politique. Simplement, il faut, je pense, bien la définir pour bien la comprendre. Donc, c'est ce qu'on avait essayé de faire avec Yves Mini il y a quelques années, en essayant de montrer que, sur la base d'une étude comparative des mouvements européens, il y avait trois constantes qui apparaissaient très clairement. Donc, il y avait l'idée, vous l'avez rappelé, que et les interviews, en tout cas les interventions qu'on vient d'entendre, sont assez claires de ce point de vue-là. Il faut rendre le pouvoir au peuple. En tout cas, le fondement de la souveraineté, quelle qu'elle soit, donc est le peuple. Le deuxième axe, c'est l'idée que les élites, quelles qu'elles soient, ont trahi, que ce soit les élites politiques ou les élites économiques, et qu'elles ont spolié le peuple de ses droits. Et la troisième constante, c'est l'idée qu'il faut revenir finalement à une situation antérieure, qui est plus ou moins mythifiée, donc qui serait une période bénie où le peuple, effectivement, avait son mot à dire.
Et donc ça, c'est des caractéristiques qu'on retrouve finalement derrière, disons, le populisme de droite, appelons-le comme ça, et le populisme de gauche.
Voilà, c'est la constante. Après, donc, il y a des différences. C'est très clair, en fonction de certains contextes nationaux, et puis peut-être aussi ici, en fonction des contextes régionaux, c'est qu'on voit très bien que le populisme de droite, en tout cas ce qu'on appelait parfois la nouvelle droite radicale, est concentré sur les pays anciennement membres de l'Union européenne, avec une question d'identité culturelle et politique très très forte. Et le populisme, en tout cas, sa variante de gauche, si on peut l'appeler comme ça, donc, est plutôt centrée dans les pays méditerranéens qui ont connu dernièrement des problèmes économiques et sociaux très très profonds.
C'est la variable, disons, la considération économique qui fait que, par exemple, cette gauche radicale populiste venue d'Europe du Sud, c'est-à-dire de l'Espagne, de la Grèce, c'est ça, c'est l'aspect économique qui a fait que ce ne sont pas des populismes de droite qui ont émergé dans ces environnements-là.
Alors, c'est une partie de l'explication. Après, il y a aussi
une dimension culturelle, historique.
Bien sûr, et puis il y a aussi les antécédents. C'est que quand il existe un parti, même minoritaire, qui est en capacité à un moment donné d'agréger le discours populiste, c'est lui qui va en bénéficier électoralement. Donc le Front National existait depuis longtemps, au moment où il a commencé sa montée dans les années 80. Donc il faut qu'il y ait une organisation qui soit en capacité de saisir cette demande ou cette attente d'attente diffuse qu'il peut y avoir dans l'électorat pour s'en faire le porte-parole.
Mais prenons par exemple l'Espagne. Qu'est-ce qui explique que finalement l'extrême droite n'ait pas bénéficié de la crise nationale et européenne en Espagne?
Je pense que c'est la crise
économique seulement?
Non, je pense qu'il y a aussi un interdit qui est lié à l'histoire du pays. Donc, dans les pays qui n'ont pas assez autoritaire, il y a une prévention beaucoup plus forte à l'égard de la résurgence de l'extrême droite radicale qui est assimilée finalement à un passé historique et qui est vu comme étant évidemment désastreux.
Et est-ce qu'on ne peut pas voir aussi une autre dimension qui est celle de l'indépendantisme, du régionalisme finalement? Le rejet de la classe politique en Espagne, cette radicalité, disons, politique, elle prend forme dans d'autres partis, en l'occurrence dans la lutte pour l'indépendantisme catalan, c'est aussi ça.
Oui, alors ce qui est vrai, c'est que les tensions alimentées par l'intégration européenne ne sont pas uniquement des tensions nationales, il y a aussi des identités régionales. Vous avez cité l'Espagne, mais on pourrait aussi citer auparavant l'Italie avec la Ligue du Nord, qui a aussi incarné une forme de régionalisme radical qui faisait de l'Europe justement un ennemi donc à combattre de manière très claire.
Dans les années 2000, on a vu aussi en Europe l'émergence de populisme, notamment de populisme d'extrême droite, pour le coup, ce qu'on a appelé les nouvelles droites radicales. On a vu ça du côté de l'Autriche, on a vu ça du côté de l'Italie, vous en parliez. En quoi est-ce qu'il vous semble que précisément ces mouvements, ces dynamiques étaient différentes de celles qu'on observe aujourd'hui?
Alors, ils n'étaient pas totalement différents. C'est-à-dire qu'il y a des constantes, évidemment, notamment parce que certains de ces partis sont toujours présents, ou alors ont retrouvé une certaine audience électorale comme en Autriche. Donc, il y a l'évidence des constantes. Mais la grande différence que je vois, notamment pour cette nouvelle droite radicale, c'est que dans un certain nombre d'États, elle est depuis quelques années en capacité de peser politiquement, donc de manière très très forte.
Et surtout, elle en a fait un objectif, alors que c'était peut-être pas toujours le cas.
Alors, c'est toujours l'ambiguïté de ces partis, c'est-à-dire qu'ils sont à la fois en dehors et à l'intérieur du système. C'est-à-dire qu'ils vont contester toute une série d'institutions ou d'acteurs qui leur paraissent incarner le système, comme ils l'appellent parfois. Mais en même temps, ils jouent parfois de manière à l'excès également les règles du jeu du système. Ils présentent des candidats à toutes les élections, donc ils ont maintenant un agenda qui est aussi un agenda qui vise à capter des positions de pouvoir. Et ça va même jusqu'au cas du Front National, où on a vu que Marine Le Pen avait fait des pieds et des mains pour créer un groupe parlementaire.
C'était difficile d'ailleurs, ça s'est fait.
Oui, d'accord, mais en même temps, c'est illustratif d'une espèce de contradiction. C'est qu'elle dénonce l'Europe, et c'est l'Europe qui finalement lui permet de tenir un discours et d'appuyer sa...
Et elle utilise le système d'une certaine manière. C'est pas une révolutionnaire, c'est une réformiste.
Alors, c'est pas une réformiste, non, je pense que c'est quelqu'un qui est assez habile pour jouer sur, justement, ce registre un peu toujours dedans-dehors. C'est-à-dire qu'elle est dedans quand ça l'arrange, elle est dehors quand il lui faut capter l'électorat.
Et alors, justement, quelle menace ces partis eurosceptiques, quels qu'ils soient, populistes de droite, populistes de gauche, quelle menace constituent-ils au sein des institutions européennes? Selon vous, c'est quoi leur capacité de perturbation au Parlement? Au-delà de, par exemple, ce qu'on entendait juste avant, c'est-à-dire des discours de Marine Le Pen au Parlement européen, on s'en souvient, il y a quelques mois.
Bon, pour l'instant, leur capacité est très faible, parce qu'ils ne pèsent pas suffisamment dans les logiques institutionnelles, y compris au Parlement européen. Donc ça n'empêche pas, disons, le processus de décision habituel de fonctionner. Après, si d'autres seuils électoraux sont atteints, si des positions de pouvoir sont captées, donc là, effectivement, les choses vont changer. Mais pour l'instant, il n'y a pas de danger, entre guillemets, sur la mécanique interne des institutions européennes.
Et quel avenir vous leur voyez ?
Ça, on ne peut pas prédire, en fait, c'est une espèce d'interdit de toujours dans les sciences sociales. Mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a une vraie menace, et que je suis frappé de voir que dans les travaux récents, pour la première fois, il y a un diagnostic négatif en termes de réversibilité du processus européen qui est lié à la montée de ces populismes et de ces nationalismes. Et que pendant longtemps, on a cru que vaille l'Europe, même si elle n'est pas toujours parfaite, elle avance par petits coups, par petits sauts qualitatifs ou institutionnels. Et pour la première fois, il y a une série de diagnostics négatifs qui voient peut-être dans la montée de ces nationalismes, un phénomène inattendu, en tout cas dont l'amplitude et le caractère relativement simultané pourraient menacer le processus.
Et alors ça c'est intéressant, est-ce qu'on pourrait pas justement se dire qu'il est temps d'accepter cette idée finalement que l'Europe pourrait revenir en arrière? Parce que quand on parle finalement de cette crise-là, et d'ailleurs c'est un petit peu le propos que je vous tenais tout à l'heure, c'est-à-dire que je vous parle tout de suite d'effondrement de l'édifice, après tout on pourrait se dire aussi qu'on est allé trop vite, comme vous le disiez, et qu'il faudrait penser justement à la manière dont il conviendrait de revenir un petit peu en arrière. Pourquoi pas laisser sortir la Grande-Bretagne? Pourquoi pas même d'autres pays qui le souhaiteraient? Finalement, désintégrer un tout petit peu, le temps de retrouver peut-être un environnement plus stable, d'homogénéiser aussi l'environnement européen. Est-ce qu'il ne faut pas se faire à cette idée aussi? Est-ce que sans ça, est-ce qu'on risque pas précisément d'aller à la catastrophe?
Alors, l'histoire de la démocratie, c'est toujours une histoire de flux et de reflux. Il y a toujours un mouvement de balancier. L'intégration européenne, je serais assez précautionneux. C'est-à-dire que, il y a une espèce de dynamique interne, malgré tout, qui a toujours porté le processus et la bloquer, ou en tout cas, parfois même revenir sur un certain nombre de compromis me paraît très dangereux, parce que ça remet en cause le choix politique fondamental qui est d'aller toujours vers un peu plus d'intégration.
Après tout, pourquoi ? On pourrait très bien se dire que...
Oui, on peut très bien imaginer...
Il en va peut-être de la survie de l'Europe, en plus.
Oui, je suis d'accord avec vous. C'est que toute cette réflexion sur les cercles concentriques, sur le fait que certains États pourraient avancer plus vite que d'autres, il y a effectivement... On n'est pas obligé d'avoir un cadre institutionnel qui soit aussi homogène et aussi large que celui qui a été pensé jusqu'à présent.
On parle toute cette semaine de la crise des valeurs démocratiques et en particulier aujourd'hui de l'Union européenne avec Yves Surel, professeur de sciences politiques à l'Université Paris 2, enseignant à Sciences Po et directeur de la collection Logique politique aux éditions L'Armatin.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
On va prendre à présent la direction des Pays-Bas. On se souvient qu'en 2005, les Pays-Bas avaient voté, tout comme une majorité d'électeurs français d'ailleurs, contre la Constitution européenne. Plus de 10 ans après, l'euroscepticisme est toujours bien présent, notamment à travers l'une de ses figures de proue, Geert Wilders, leader du Parti pour la Liberté.
Nous ne sommes plus souverains, nous ne sommes même plus autorisés à former notre propre politique migratoire ou à fermer nos frontières. Et je ferai cela, oui, car je crois qu'une vraie démocratie ne peut exister que dans un État-nation. Et nous avons perdu le concept d'un État-nation au profit de Bruxelles, un organisme supranational, sans identité et donc sans démocratie, avec des gens qui ne sont pas élus, qui décident de tous les sujets dont nous devrions décider nous-mêmes. Je n'ai rien contre l'Europe, mais j'ai quelque chose contre l'institution supranationale qu'est l'Union européenne. Je souhaiterais que les Pays-Bas soient plus comme la Suisse, au cœur de l'Europe, mais pas dans l'Union européenne. Qu'ils aient toujours un accès au marché interne, mais retrouver notre souveraineté politique et nationale.
Voilà, retrouver notre souveraineté politique et nationale, je pense que c'est assez clair, les propos de Geert Wilders. On va retrouver un nouvel invité depuis Amsterdam, c'est Laurent Chambon, bonjour.
Bonjour,
merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de français et de sciences politiques à Amsterdam. Alors la semaine dernière, c'est ça l'actualité aux Pays-Bas, les électeurs, les citoyens étaient invités à s'exprimer par voie référendaire sur un accord d'association entre l'Ukraine et l'Union européenne. Alors les citoyens ont voté majoritairement en faveur du non, 61%, comme leur avait indiqué d'ailleurs Geert Wilders, qu'on entendait à l'instant, donc le leader du Parti pour la Liberté, et qui a salué d'ailleurs un vote de défiance à l'égard des élites de Bruxelles et de La Haye. Comment interpréter ce vote et dans quelle mesure faut-il le voir, comme le pense Wilders précisément, comme une marque d'euroscepticisme des Néerlandais ?
Alors déjà, il faut comprendre que ce référendum a été boycotté par la plupart des partis politiques, à part l'extrême gauche et l'extrême droite, et qu'il a été commencé par Renster, qui est une forme de média un peu troll où les gens s'insultent et qui est très proche de Geert Wilders, même s'il les critique tout le temps. Donc c'était déjà un groupe un peu à la marge. Ensuite, il fallait 30% pour que le référendum soit considéré comme valable, et on est à 32% à peine, mais c'est pas vraiment énorme. Et la plupart des gens qui ont voté, en fait, c'est des gens qui étaient très, très décidés à voter, alors que ceux qui auraient pu voter oui, en fait, ne se sont pas déplacés. Mmh. Donc, c'est pas pour dire que le oui aurait gagné, c'est pas la question, mais c'est un référendum très discutable.
S'ils ne se sont pas déplacés, Laurent Chambon, est-ce que c'est pas aussi parce que, d'une certaine manière, les responsables néerlandais n'ont pas fait le job, ceux qui, en tout cas, pensaient qu'il fallait défendre le oui ? Les partisans néerlandais de l'Europe, ils étaient où ?
Il y a eu zéro campagne sur le oui, quasiment. Il y a juste quelques ministres qui se sont montrés au front, mais c'est un gouvernement très impopulaire, donc ça a plutôt desservi le oui qu'autre chose. Et ensuite, la plupart des partis du centre, les gens qui auraient pu voter oui, ne comprenaient pas trop la question, vraiment, parce que la question, c'est soit on dit oui, et dans ces cas-là, le risque est que l'Ukraine appartient à l'Union européenne, ce que veulent pas les Néerlandais, ou on dit non, mais dans ces cas-là, on aide Poutine. Et il faut savoir que le non aussi est vu avec raison comme une manipulation de la Russie, parce que ces gens-là de Renssel et Herzedas lui-même sont en partie aidés par Poutine avec des fonds comme le Front National par la Russie. Et bien sûr, c'est l'intérêt de la Russie d'avoir un non sur l'association avec l'Ukraine. Donc les gens ont quand même commencé à comprendre qu'ils se faisaient vraiment manipuler. Mais de là à voter oui, je sais pas. C'est ça le vrai problème. C'était vraiment un référendum pourri, quoi. Une question auquel personne n'avait envie de répondre.
C'est d'ailleurs souvent le cas avec les référendums. On répond jamais véritablement complètement à la question. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est quand même un terrible signal. Quelques semaines avant le référendum britannique sur une éventuelle sortie de l'Union européenne, ça sera le 23 juin. C'est quand même un signal terrible.
Oui, c'est un peu une mauvaise nouvelle, sachant que au référendum d'avant, la France avait voté non, ce qui avait libéré les Néerlandais qui ont voté non aussi de façon beaucoup plus massive. Donc il y a effectivement un risque d'entraînement, c'est évident. Sachant en plus que culturellement, les Anglais et les Néerlandais, c'est des cousins, hein, c'est des civilisations très proches. Et les Néerlandais sont des gens qui aiment bien faire du business, ils ne produisent pas beaucoup, c'est plutôt des boutiquiers. Et donc leur mentalité est proche de celle des Anglais. Donc si les Néerlandais pensent comme ça, même si c'est très discutable, il y a des chances que les Anglais pensent aussi comme ça.
On va revenir dans un instant avec vous sur le Parti pour la Liberté de Geert Wilders et voir si oui ou non il pourrait accéder au pouvoir, parce qu'on voit que les sondages sont de plus en plus favorables. Mais d'abord Yves Surel, réaction sur le résultat de ce référendum.
Comme il a été dit, donc c'est un résultat assez ambigu, parce qu'en même temps, il y a un taux de participation qui est très faible, et même si ça a suffi pour valider institutionnellement le référendum, ça reste un indicateur finalement assez limité. Mais ce que ça révèle sans doute, c'est encore une fois la difficulté qu'ont les élites européennes, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, à assumer pleinement le projet, y compris lorsqu'il s'agit de le défendre devant les urnes, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de convaincre effectivement les électeurs du bien fondé du processus.
Alors, Laurent Chambon, les sondages actuels donnent le PVV vainqueur en cas d'élection. En effet, on nous dit qu'il obtiendrait plus de sièges que la coalition de libéraux et travaillistes qui sont au pouvoir en ce moment. Question très générale, comment comprendre le succès du PVV auprès de l'opinion et pourquoi aussi, ça sera une question qu'il faudra se poser, pourquoi est-ce qu'il ne parvient toujours pas à convertir tout cela en une prise de pouvoir? Et est-ce que vous pensez que finalement ça pourrait venir? Parce qu'il y a des élections bientôt maintenant, dans un an. Moins d'un an.
Oui, alors, déjà, je vais pas jouer au marxiste, mais le pays officiellement est sorti de la crise. Il n'empêche que le niveau de vie des Néerlandais a vraiment beaucoup baissé depuis la crise. Et les gens se rendent compte qu'on a vraiment un problème structurel économique. Et les gens qui votent Wilders ne le font pas forcément de façon 100% rationnelle, de toute façon personne ne le fait, hein. Mais il y a cette espèce de colère qu'on sent pareil aux États-Unis ou en Angleterre, vis-à-vis des élites, vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis des banques, etc. Et Wilders mélange ça avec un peu d'islamophobie qui marche à chaque fois, un petit peu de racisme, et c'est la combinaison idéale. Ce qu'il faut voir aussi, c'est le succès...
Et un petit peu d'euroscepticisme quand même, et un petit peu d'euroscepticisme. Dans quelle mesure justement
c'est un mélange, je pense que c'est très proche de Marine Le Pen.
Dans quelle mesure la carte de l'euroscepticisme joue dans le succès du PVV?
Moi je dirais pas trop. Je dirais que c'est plutôt une révolte contre les élites traditionnelles néerlandaises, contre le système politique qui est complètement coincé, qui va d'une ministère à l'autre, et quand on vote pour un parti, justement, on va en parler, mais c'est pas forcément comme ça qu'il va arriver au pouvoir. Et donc, on voit que les classes populaires néerlandaises en ont vraiment, vraiment marre de ce système, et souvent, leur colère est un peu dirigée à l'aveugle, une fois contre le foulard, une fois contre l'Europe, une fois contre les Polonais, c'est cette colère qu'on retrouve partout en Europe. Et aux Pays-Bas, elle a une forme, effectivement, d'islamophobie et de haine envers Bruxelles.
Mais les Néerlandais ne sont pas spécifiquement europhobes, en tout cas. C'est ce qu'on entend.
En fait, ils sont pas europhobes. Ils sont au cœur de l'Europe. Ils profitent à fond de l'Europe. Sans l'Europe, les Pays-Bas, ils produisent quasiment rien. Ils transportent et transforment les choses des autres. Les Pays-Bas, c'est un énorme hub maritime, routier et aérien. Donc, Sans l'Allemagne, sans l'Angleterre, sans la France, les Pays-Bas n'existent pas. Hein.
Et est-ce que vous pensez que le PVV pourrait arriver au pouvoir? Pourrait être en capacité de former un gouvernement?
La deuxième question, c'est la formation du gouvernement. Ici, on a la proportionnelle pure, et il faut une majorité à la première et à la deuxième chambre pour diriger. Alors, le PVV avait participé de façon passive à un gouvernement il y a quelques années, c'est-à-dire il le soutenait, mais sans donner des ministres, c'est la méthode danoise. Sauf que, en fait, ils se sont retrouvés confrontés au fait que quand on est au pouvoir, en fait, on doit prendre des décisions. Et c'est facile d'avoir des grands rêves, de casser plein de choses, mais il faut qu'on se fasse. Et donc maintenant, la plupart des partis ont dit, franchement, le PVV, on en a trop soupé. Hors de question qu'on fasse une coalition avec eux. Résultat, Geert Wilders qui se voit à un tiers des voix, c'est-à-dire un tiers des sièges à la Chambre, donc 50 sur 150, est super furieux parce qu'il va probablement devenir le plus grand parti, mais il va être aussi probablement le parti qui n'a aucune chance d'aller au pouvoir, alors que tous les autres partis ont finalement des chances de participer à une coalition. Et donc déjà, il vient de dire, le plus grand parti des Pays-Bas ne vient pas au pouvoir, nous allons faire une révolution. Donc une révolution fasciste, c'est un peu beaucoup dire, mais il a menacé en gros qu'il ferait une révolution d'extrême droite s'il n'arrive pas au pouvoir. Donc une ambiance sympa, on va dire.
En tout cas, de fait, s'il arrive premier aux élections et qu'il est dans l'incapacité de former un gouvernement, on aura en face de nous une crise institutionnelle et politique évidente. Yves Surel, réaction.
Oui, ça me rappelle aussi ce qui s'était passé en Autriche dans les années 2000, lorsque le FPE était arrivé dans une coalition avec le Parti conservateur. On avait vu tous les dangers, entre guillemets, pour un parti populiste d'avoir accès au pouvoir. C'est que, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure, ça l'oblige cette fois-ci à choisir entre le dedans et le dehors. C'est, quand il est dans le système, il ne peut plus évidemment qu'on critiquer de l'intérieur le système. Donc la limite de ce positionnement un peu politique qu'ont choisi les partis populistes, c'est cette incapacité de fait à tenir un discours gouvernemental et surtout à assumer une pratique gouvernementale réelle, ce qu'on peut pas être encore une fois à la fois en dehors et au sein du système.
Et comment réagissent les Néerlandais, Laurent Chambon, justement, quand ils entendent Geert Wilders leur expliquer que si jamais il arrive en tête des élections et qu'il n'est pas en capacité de former un gouvernement, il fera la révolution? Qu'est-ce que ça fait chez eux?
En fait, les gens n'en parlent pas beaucoup. C'est surtout le monde...
Ça les inquiète pas.
Parle, comme d'habitude, non, ça paraît les inquiéter. Mais les Néerlandais ont une réputation toujours de faire toujours confiance à leur élite. Et, moi, en tant que Français, ça me fascine beaucoup, leur confiance au fait que leur élite va toujours tout résoudre. Je trouve ça assez fascinant qu'il y ait si peu de réaction. Ceci dit, au sein des partis, c'est la panique, surtout à gauche. Et la droite classique se vautre à fond dans les thèmes wilderiens en espérant récupérer des voix, comme en France avec le FN. Et la gauche, ils sont déjà en train de se battre pour savoir qui va être le chef pour remonter la pente, parce que ça va vraiment être une saignée aux élections. Donc en gros, c'est plutôt au sein des partis politiques et des médias qu'il y a la panique, et le peuple, je pense, a d'autres priorités.
Alors, on comprend que finalement, en tout cas de votre point de vue, l'hypothèse de voir Geert Wilders arriver à la tête d'un gouvernement est quand même très faible, pour les raisons que vous nous avez expliquées, mais faisons quand même l'hypothèse. Si c'est le cas, est-ce que on verrait un Wilders proposer un référendum, comme on l'a vu avec Cameron en Grande-Bretagne, un référendum sur la sortie de l'Union européenne?
Honnêtement, si j'étais Wilders, ce n'est pas le cas. Hein, et si j'ai promis depuis longtemps qu'on va sortir de l'Union européenne, je ne vois pas comment il pourrait se défausser.
Mais il ne s'est pas engagé là-dessus.
Si Wilders arrive au pouvoir, c'est vraiment difficile de ne pas essayer de sortir de l'euro et de l'Union européenne.
Mais il ne s'est pas engagé là-dessus.
Ah non, mais ça, c'est ce qui est toujours très très fort avec Wilders, c'est qu'il ne s'engage vraiment jamais sur rien. Son programme n'est pas clair du tout, il fait plein de souhaits, il tape sur tout le monde, mais à la fin, on ne sait pas trop qu'est-ce qu'il va faire quand il arrive au pouvoir.
Ouais, mais c'est peut-être
la
le signe ici...
La seule chose, c'est comme Trump, ce qu'il dit, c'est qu'il va déporter une partie des étrangers qui sont ici, qu'ils soient d'Europe de l'Est, du Maroc ou de la Turquie, et la priorité aux Néerlandais. Mais ça, c'est... entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, à moi...
Mais c'est peut-être une précaution qu'il prend, Yves Surel, je ne sais pas, c'est peut-être une précaution qu'il prend pour justement laisser ouvert cette possibilité de former une coalition, même si les autres partis ont déjà prévenu qu'ils ne feraient pas de coalition avec Geert Wilders, c'est peut-être aussi ça qui est derrière, non?
Dans le cas des compromis qui peuvent être passés dans la vie politique néerlandaise, c'est peut-être une façon pour lui, effectivement, de fémiser ses dissensions avec des partis avec lesquels il pourrait être amené à gouverner, oui.
Merci beaucoup en tout cas à vous, Laurent Chambon, d'avoir été avec nous ce matin depuis Amsterdam, professeur de français et de sciences politiques à Amsterdam. On va prendre la direction à présent de la Hongrie. Alors le parti Fidesz du Premier ministre hongrois Viktor Orban est au pouvoir maintenant depuis 2010. Depuis, cette droite nationaliste s'illustre par une politique étrangère assez dure, mais aussi par une politique d'accueil des réfugiés extrêmement restrictive, et puis plus généralement par un mépris assez profond des valeurs démocratiques et par un rejet de l'Europe, évidemment.
A magyarok sorsa úgy összefonódott Európa népeivel.
Le destin de la nation hongroise est désormais lié à celui des nations européennes et fait maintenant tellement corps avec cette union qu'aujourd'hui aucun peuple, y compris le peuple hongrois, ne peut être libre si l'Europe ne l'est pas. Et aujourd'hui, l'Europe est faible, fragile et malade, telle une fleur rongée par un ver invisible. Aujourd'hui, 168 ans après les indépendances des peuples européens, l'Europe, notre patrie commune, n'est pas libre. Aujourd'hui, en Europe, il est interdit de dire la vérité. Même fait de soi, un bâillon reste un bâillon. Il est interdit de dire que les réfugiés n'en sont pas et que l'Europe est menacée par ces migrations. Il est interdit de dire que des dizaines de millions d'individus s'apprêtent à se mettre en marche en direction de l'Europe. Il est interdit de dire que l'immigration apporte terreur et crimes partout où elle s'installe. Il est interdit de dire que ces masses d'hommes étrangers à notre civilisation mettent en péril notre mode de vie, notre culture, nos coutumes et nos traditions chrétiennes.
Voilà, donc Viktor Orban, le Premier ministre hongrois. Il faut quand même rappeler, on le disait tout à l'heure, que jusqu'ici, c'est sur 160 000 demandeurs d'asile que les États membres avaient promis de se répartir entre eux. On l'a dit tout à l'heure, un petit peu plus de 1 000 qui ont été en réalité répartis et aucun du côté de la Hongrie. Et le Premier ministre hongrois compte bien évidemment poursuivre sur cette politique de fermeture, disons, en croire en tout cas sa rhétorique ouvertement hostile, très hostile aux migrants et qui prend aussi évidemment des formes extrêmement concrètes avec l'érection de murs barbelés le long de la frontière avec la Serbie et la Croatie. On va retrouver un nouvel invité, c'est Hendrik Hansen. Bonjour.
Bonjour messieurs.
Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur de politique internationale et européenne à l'université Andrássy à Budapest. Alors il y a quelques jours, le gouvernement hongrois a lancé lui aussi sa campagne, une campagne donc en faveur du non au référendum national, parce que là aussi on va avoir un référendum sur les quotas de réfugiés dans l'Union européenne. D'ailleurs on a mis en ligne un site internet extrêmement alarmiste sur les terroristes déguisés en migrants et les centaines de zones prétendues de non-droit en Europe où les autorités n'auraient plus aucun contrôle de la situation. Alors c'est Orban qui a lancé cette idée de référendum sur l'immigration. Les citoyens devraient se prononcer sur la question de savoir si la Hongrie doit accepter ce mécanisme de répartition des réfugiés. Qu'est-ce qu'on peut en attendre et quelle valeur est-ce qu'il aura en cas de victoire du non, Hendrik Hansen?
Je crois que la valeur sera surtout symbolique. Parce qu'en fait, je crois qu'il faut différencier entre deux niveaux du problème. Il y a d'un côté les problèmes réels, c'est-à-dire le problème, c'est que beaucoup de politiciens hongrois ne comprennent pas la politique allemande de l'automne dernier, de l'ouverture des frontières. La Hongrie a la conception que eux, ils protègent les frontières extérieures du territoire Schengen et que la clôture frontalière fait partie de cette protection de la frontière. Alors ça, c'est un côté du problème. Il considère aussi que on a des problèmes de sécurité à cause de la politique migratoire de l'Allemagne. Et en fait, certains des terroristes de l'État islamique ont utilisé la route des Balkans. Mais alors ça, c'est le problème. Donc il y a des problèmes réels auxquels réagissent le gouvernement hongrois. Mais de l'autre côté, il y a le côté symbolique, c'est-à-dire il y a le côté de la politique intérieure, c'est-à-dire Orban fait face à un mécontentement de la population. Il se sert de la crise, en partie, il se sert de la crise pour rallier les électeurs derrière lui, parce qu'il sait que la plupart des Hongrois, ils rejettent la politique migratoire de l'Allemagne, notamment.
Bon, c'est de la politique politicienne, parce qu'évidemment, c'est très étonnant de voir Orban dépenser autant d'énergie pour la lutte contre l'immigration, alors même qu'en réalité, le pays n'est absolument pas envahi par les réfugiés, que les problèmes de sécurité liés aux réfugiés, bon, ils sont quand même mineurs. On a dit mal, c'est vrai, Yves Surel, et puis je vous redonne la parole, Hendrik Hansen, mais Yves Surel a y voir autre chose qu'une instrumentalisation qui vise à séduire l'opinion.
Oui, et puis on voit aussi dans le discours qu'on entendait tout à l'heure qu'il y a une autre forme d'instrumentalisation, c'est qu'il estime que l'Europe n'est pas libre, donc il essaye d'incorner finalement une autre forme de projet européen, avec une espèce de contradiction entre l'ultranationalisme et puis une espèce de demande d'Europe plus ou moins fantasmée. Mais dans le cas hongrois, ce qui moi m'a toujours étonné, c'est le silence des institutions européennes et des principaux États membres par rapport à d'authentiques régressions de l'état de droit sur les dernières années. C'est-à-dire que, alors qu'on a sanctionné précisément le gouvernement autrichien il y a quelques années en boycottant les institutions européennes pendant plusieurs mois lorsque le FPE était entré dans la coalition. Là, on a des retours, enfin en tout cas des retraits démocratiques avérés sur lesquels finalement les institutions européennes se sont très peu prononcées.
Il y avait eu une petite enquête sur les lois adoptées en Hongrie justement concernant l'asile, mais c'est vrai qu'on a l'impression que la pression est quand même pas très très forte sur Orban.
Ça rejoint un peu notre discussion tout à l'heure sur le compromis avec la Turquie. C'est que même s'il y a toujours des compromis politique passée au sein des institutions européennes, la nature récente de certains compromis va à l'encontre de certaines valeurs fondamentales qui doivent soutenir le projet.
Vu de l'intérieur, Hendrik Hansen, que vous inspire justement la réponse, la riposte extrêmement modeste, fragile, pas beaucoup entendu l'Europe sur la Hongrie. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, de l'intérieur ?
Alors, d'un coup, j'aimerais bien réagir à ce que dit Monsieur Sorel.
Je vous en prie.
En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a de nombreuses relations entre, au sein du Parti populaire européen, entre Fidesz, par exemple, et les chrétiens démocrates en Allemagne. Il est vrai qu'il n'y a pas une pression très forte au sein des institutions européennes, mais il y a une pression très forte, si on veut, dans des meetings inofficiels. Je sais que il y a de nombreux politiciens, par exemple, allemands, qui viennent en Hongrie et qui ont des contacts très étroits avec le gouvernement hongrois, aussi entre Merkel et Orban. Il y a une dispute maintenant sur la politique de la migration, mais en général, il y a un lien étroit, et je crois que ça aide aussi à modérer la politique hongroise. La politique hongroise, elle est bien plus modérée que la politique polonaise de Kaczynski. Kaczynski, lui, son parti, il ne fait pas partie du Parti populaire européen. Et je crois que c'est un truc important de les garder au sein du Parti populaire européen pour avoir ces échanges inofficiels qui aident à modérer la position.
Pour bien comprendre peut-être, Hendrik Hansen, de quoi est fait finalement le rejet de l'Europe en Hongrie, il faut peut-être distinguer les choses. Parce qu'il y a deux types de rejet finalement. Il y a celui du Fidesz de Viktor Orban. Exactement. Et puis il y a le Jobbik, qui est l'alliance des jeunes de droite, qui est un parti d'extrême droite, ultranationaliste, carrément même à tendance néo-nazie. On a deux formes en réalité, deux visages de ce rejet de l'Europe en Hongrie, qui sont très différents.
Oui, très différent. C'est tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Parce que, en fait, si vous écoutez bien Orban, ce qu'il dit, en fait, dans la citation que vous avez eue dans votre émission là il y a quelques minutes, il a parlé de l'Europe et l'Europe qui n'est pas libre, etc. Bon, c'était très un discours très populiste. Mais en fait, derrière, vous avez cette conception de en fait l'Europe des patries, si vous voulez. Donc eux. Fidesz, ils sont en faveur d'une intégration européenne, mais plutôt économique et qui ne pose pas un problème pour la souveraineté de la nation. Et ça, c'est un sujet très important en Hongrie, parce qu'en fait, les Hongrois, ils considèrent que eux, ils ont regagné la souveraineté avec la chute du rideau de fer, et maintenant, ils veulent vivre cette souveraineté nationale un peu comme les Polonais. Par contre, Jobbik, eux, ils rejettent carrément l'intégration européenne. Ils sont anti-tziganistes, ils sont aussi antisémites, et ils cherchent un peu à modérer leur discours, mais ils sont toujours très antisémites, ils sont anti-européens, anti-globalisation, etc. Et de leur point de vue, la Hongrie ferait mieux de coopérer avec des pays comme la Turquie, par exemple, que de coopérer avec les gauchistes en Europe occidentale.
C'était
leur position.
Un petit mot peut-être pour comprendre justement l'articulation. Je donne la parole à Yves Surel. L'articulation entre ces deux visages europhobes hongrois, c'est-à-dire d'un côté le Fidesz et de l'autre côté le Jobbik. Quel lien justement il y a entre les deux entités? On comprend bien que d'un point de vue politique, on a deux visions différentes finalement, avec d'un côté le Fidesz qui est favorable à cette Europe des patries et de l'autre côté un rejet total du Jobbik. Mais les liens réels entre les deux entités, dans quelle mesure finalement le Fidesz s'appuie aussi un petit peu sur le Jobbik?
Alors, entre Jobbik et Fidesz, c'est tout d'abord une concurrence très forte. Mmh. Et beaucoup des discours de Orban se peuvent comprendre à cause de la concurrence de Jobbik sur le côté de l'extrême droite. En fait, je dirais pas que Fidesz est europhobe. Fidesz, c'est un discours national conservateur, et je crois qu'il faut prendre l'habitude que nous avons des positions nationales conservateurs en Europe et qu'il nous faut le dialogue avec ses positions. Par contre, avec Jobbik, vous ne pouvez pas avoir un dialogue parce qu'eux, ils rejettent carrément tout le projet européen. Avec Fidesz, vous pouvez discuter de l'avenir du projet européen. Ils ne veulent pas une fédération, mais ils veulent aussi la coopération. Et d'ailleurs, ils profitent très largement des supports économiques et de l'intégration économique au sein de l'Union européenne. Mmh. Alors, c'est sur ce plan-là que vous pouvez trouver le dialogue avec les membres de Fidesz et puis ensuite élargir sur le niveau culturel et aussi sur le niveau politique où en fait ils coopèrent assez assez bien. Il y a toujours une différence entre les discours à Budapest et les discours à Bruxelles. Quand vous regardez les politiciens Fidesz. En fait, Orban, il a rarement fait des grands problèmes au sein du Conseil européen. Il mène des discours parfois un peu radicaux à Budapest, mais à Bruxelles, il cherche plutôt à coopérer avec ses partenaires européens.
C'est pas le trublion dont on a l'image parfois ici, vu de Bruxelles. Yves Surel, Hendrik Hansen nous dit, il faut discuter avec ce Fidesz qui a ses positions, disons, nationales, conservateurs.
Non, mais je souscris à cette idée. Et c'est vrai que les relations informelles entre les politiciens allemands et le Fidesz sont sans doute importantes. Mais pour reprendre aussi des éléments qu'on évoquait tout à l'heure, ce qui manque, c'est une réponse collective. On peut pas traiter uniquement ce problème d'un point de vue bilatéral. Il faudrait le traiter de manière multilatérale. C'est un problème aussi qui est un problème, dans ce cas, européen et qui engage les valeurs de l'intégration européenne. Et c'est plutôt le déficit des institutions européennes communes qui manque par rapport à ce type de réaction.
Allez, tout dernier mot peut-être, Hendrik Hansen, parce que pour comprendre finalement la rhétorique de Orban, il y a la concurrence, vous nous le disiez, du Jobbik, et donc il ne faut pas se faire dépasser par la droite. Et puis il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre, c'est que la Hongrie, évidemment, a longtemps vécu sous la tutelle de pays extérieurs, et notamment, bien sûr, de l'URSS. Et que du coup, aujourd'hui, le pays est extrêmement attaché à sa souveraineté. Ce n'est pas quelque chose de négociable. Du coup, à chaque fois qu'elle semble touchée, la riposte est immédiate.
C'est tout à fait. Alors il y a cette idée qu'on a vécu pendant des centaines d'années sous la tutelle de forces extérieures, d'abord l'Autriche, ensuite les Allemands, donc le national-socialisme, ensuite l'Union soviétique, et aussi il y a cette traumatisation par la perte de la Grande Hongrie dans le traité de Trianon en 23, parce qu'en fait la Hongrie a perdu 2/3 de ses territoires et n'a jamais eu la possibilité de vraiment ouvertement discuter de ce phénomène. Alors après 89, c'était comme un problème qui a été congelé, si vous voulez, lors de la guerre froide. Et maintenant, ça ressurgit cette idée de la Grande Hongrie qui est utilisée par Jobbik, qui n'est pas c'est pas utilisé par Fidesz, mais Fidesz aussi a des idées assez nationales. La politique vis-à-vis de l'histoire, par exemple quand vous regardez les nouveaux monuments à Budapest, ça reflète une position très très nationale aussi au sein du Fidesz.
Du coup, évidemment, peut-être que ça peut interroger, parce qu'il y a une autre chose qui paraît être contradictoire avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'il y a aussi chez Orban une certaine fascination à l'égard de Poutine, et du coup on se dit la souveraineté de la Hongrie, pour la protéger, il faut aussi d'une certaine manière se protéger de la Russie et de la Russie de Poutine. Alors c'est vrai que, et d'ailleurs c'était un petit peu le message qu'avait fait passer Angela Merkel lors de la visite en février 2015 d'Orban du côté Moscou, dans un moment d'ailleurs de très forte tension entre Bruxelles et Moscou. Angela Merkel avait très moyennement apprécié cette forme de rapprochement avec Orban qui était allé jusqu'à Moscou. En tout cas, merci beaucoup Hendrik Hansen d'avoir été en direct avec nous depuis la Hongrie, et un grand merci à vous Yves Surel d'avoir été notre invité ce matin. Voilà, c'est avec ce titre intitulé Utopian Land qui est, figurez-vous, la chanson qui sera présentée par la Grèce pour le prochain Eurovision. Utopian Land, on pense un tout petit peu à l'Europe, hein, Yves Surel. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été notre invité ce matin.